Une question qui me taraude un peu, qui est un peu théorique. Est-ce qu'une restructuration des politiques publiques par des priorités qui seraient celles de la pyramide de Maslow serait peut-être une voie de travail ou d'étude?
Alors la pyramide de Maslow, elle était intéressante en son temps, mais depuis il y a Manfred Maxniff qui a fait des travaux sur la question des besoins qui me paraissent beaucoup plus intéressants. D'abord parce qu'il n'y a plus de hiérarchie entre les besoins. Et la pyramide de Maslow, elle a quand même un gros défaut. C'est d'abord, on s'occupe du niveau 1. Et en fait, soi-disant, les gens n'ont pas besoin. Ce qui expliquerait pas certains phénomènes historiques. Pourquoi les gens ont préféré sacrifier le côté matériel par rapport à la liberté. Enfin, donc, non, je pense que la pensée qu'a développée Manfred Maxniff sur le fait que les besoins, on ne peut pas les traiter séparément, mais comme un système, me paraît effectivement intéressant pour les politiques publiques, mais ça veut dire que cette question... moi, je pense que c'est plutôt par le... On a besoin de concertation collective sur ces questions des besoins. En tout cas, ça fait partie, à mon avis, de... Mais je pense pas que par Maslow, ce soit la meilleure façon de faire.
Parcellement,
donc, peut-être plus, oui.
Mais ça impliquerait que, par exemple, au niveau national, le ministère de la Santé, de l'écologie, du logement, etc. Enfin, on aurait peut-être une dizaine de politiques prioritaires, structurantes, et on revisiterait le modèle économique tel qu'il est posé aujourd'hui. Est-ce que c'est une piste de travail? Est-ce que la modélisation des systèmes économiques pourrait s'orienter vers cette théorie-là?
Je ne sais pas.
Non, mais est-ce que ça se fait ou...
Je ne sais pas là-dessus.
D'ailleurs, quoi. Oui, attendez, bon.
Bonjour, Rodolphe Vincent, je travaille au ministère. Mais ma question porte sur le cas de Paris. Vous dites cette schizophrénie, d'une part, le Grand Paris qui a été clairement pensé pour renforcer l'attractivité de Paris et au regard de la compétition internationale, et cette transition écologique qui s'impose pour faire que Paris soit une ville plus vivable. Pour vous, c'est obligatoirement un choix. Il y a une branche qui doit être suivie et qui exclut l'autre. Ou au contraire, il faut dépasser ces deux options. Et au final, c'est tout le challenge des politiques pour arriver à concilier à la fois cette mise en œuvre effective de la transition écologique et de rester dans la compétition internationale.
En fait, il y a très longtemps, dans le milieu du management, on a compris que les stratégies médianes ne sont jamais les bonnes. Globalement, on ne peut pas faire quelque chose et son contraire. Là, c'est clairement quelque chose de son contraire. On ne peut pas dire qu'on est dans une logique de mondialisation et d'attractivité totale, de flux mondialisé, et en même temps, ce qui est vraiment indiqué, hein, si vous allez sur le site de Paris en transition, il y a vraiment des principes qui sont complètement... Enfin, on ne peut pas faire coexister des choses avec des principes totalement... ils sont inconciliables, à mon avis. Ensuite, c'est un choix à faire, mais là, on est vraiment... C'est un cas de schizophrénie aiguë.
Oui, je pense que la question de savoir si c'est vraiment, si c'est tout à fait inconciliable, pourrait être soumise à la réflexion collective.
Ah oui, parce que est-ce que dans les facteurs de l'attractivité, il n'y a pas justement une dimension de développement durable demain?
Ah, de développement durable, oui, mais le développement durable, c'est la croissance, et c'est ce que j'ai montré.
C'est même de transition.
Vas-y.
Moi, j'avais juste... deux remarques. Alors,
continue à vous présenter. Ouais. C'est
non, Pascal problème. Vivier, CEREMA. Moi, j'avais juste deux remarques, qui peuvent aussi être des interrogations. Par rapport alors, à la rétrospective globale, vous concluez sur la question des inégalités, mais je trouve que du coup, dans votre rétrospective, vous oubliez tout un pan qui est quand même l'histoire communiste. Je veux dire, le modèle que vous présentez, il y a encore 30 ou 40 ans, c'était pas forcément... Enfin, il y avait encore...
Pas le rapport avec le communisme.
Hein, mais... je veux dire, il y a eu quand même... Non, mais la question des inégalités était au cœur de la réflexion quand même.
Le soviétisme n'a rien à voir.
Bon, ok, non, mais voilà, non, mais c'est ma question, je voulais poser, vous répondrez. Voilà, mais moi, il y a eu cette réflexion-là, qui a eu aussi des conséquences en termes d'environnement. Enfin, voilà, je trouve que c'est, dans la rétrospective, c'est quand même aussi intéressant d'avoir un regard aussi critique sur ce modèle-là. Après, vous porterez, justement. Mais voilà, je trouve que... Enfin, il y a quand même quelque chose là-dessus qui manque la rétrospective. Puis le second point, c'était justement sur le côté transition. Bon, moi, j'ai 15 années dans la fonction publique sur l'environnement, 15 années de lassitude, et c'est vrai, il y a 2 ans, on a essayé de lancer mon village en transition, voilà, et dire finalement, on sera plus efficace dans l'action privée que dans l'action professionnelle. Et je vois d'ailleurs du coup des gens qui font, ce qui change beaucoup de gens qui parlent. C'est très intéressant de voilà. Mais on reste sur des petits gestes. Ça veut dire que je vois des gens qui font, qui réfléchissent beaucoup sur du panneau photovoltaïque pour chauffer leur piscine. Voilà, pour arriver au paradoxe. Et du coup, moi, la vraie question, c'est voilà, comment on articule le local et le global. Et alors, est-ce que la solution, c'est forme de communisme local, village Schtroumpf, voilà, et comment on articule ça? Et c'est vrai que j'ai pas de réponse, quoi.
Oui. Juste en complément sur les politiques publiques, la question, on aurait pu peut-être la poser autrement. Est-ce qu'on peut imaginer une transition dans laquelle on continue de penser que plus égale mieux? Et ça me faisait penser qu'il y avait peut-être une Bible que vous n'avez pas donnée, qui était le Hartmut Rosa, accélération et...
Il n'a pas dit l'auteur.
Résonance. Et une des voies, c'est peut-être aussi de se souvenir qu'à chaque fois qu'on a plus de possibilités, on est également plus frustré parce qu'on ne peut pas les avoir toutes.
C'est Sylvie Danoun du CGVD.
Mais alors, je voudrais juste dire que le soviétisme, c'est du productivisme aussi, c'est pas mieux. Je veux dire, Stakhanov était quand même pendant longtemps le symbole de ça. Enfin, c'est pas mieux. L'état de l'environnement dans les anciens pays soviétiques, c'était catastrophique. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ignacy Sachs n'était pas communiste pour deux sous. Tous ces gens-là sont pas communistes. Pour moi, c'est pas ça. Piketty, il dit quand même des choses intéressantes dans son livre d'il y a quelques années. Il dit quand même qu'aux États-Unis, en Angleterre, qui sont quand même pas les pays les plus communistes au monde, on avait réussi à taxer jusqu'à 90% les 1% les plus riches. Enfin, je veux dire, tous les problèmes que l'on a de manque de financement, d'infrastructures, de tout ce qui peut faire qu'on peut aller faire du changement dans les villes en transition et tout ça, il y a un problème d'argent patent. Si on trouve pas une solution pour aller chercher de l'argent là où il y en a, parce qu'il y en a quand même beaucoup à l'échelle mondiale, et ben de toute façon, effectivement, on fera pas grand chose. Mais je pense pas que ce soit une question communiste. Hein. Quand les Américains ont fait ça dans les années 40-50, c'était pas tout à coup qu'ils se sentaient communistes.
Mais peut-être, Nicolas, pour appuyer un peu la question, je résume ton propos en disant, derrière l'impératif écologique, il y a un grand impératif global et local qui est celui de la réduction des inégalités. Le collègue te dit, ça a été le grand mot d'ordre du XXe siècle. Tu as raison de rappeler que Roosevelt a certainement fait plus de chemin dans la matière que Staline, ça c'est tout à fait contestable. Mais l'invention de l'État-providence est une réponse à la question sociale. Et donc, tu donnes des chiffres que Piketty a racontés et qui laissent un peu pantois quand on reproche... à ces États-Unis d'être la nation même du néolibéralisme, mais ça a été aussi pendant un temps la nation de la redistribution. Donc, la mobilisation de l'égalité. Donc, en gros, ce qu'il dit, mais ce mot d'ordre n'est pas si nouveau que ça, on y a travaillé un siècle, et apparemment, il y a des remises en cause, des doutes, des dépassements, si bien qu'il ramène au point de départ.
Et surtout,
mais c'était bien ça.
Oui, mais surtout, on pourrait repenser aussi au récent bouquin de Charbonnier, l'Abondance et Liberté, c'est-à-dire que. La promesse d'abondance et de liberté, elle est fondée sur ce système, et c'est ce que vous rappeliez sur le principe du développement durable, c'est-à-dire qu'en gros, il va falloir continuer à produire pour pouvoir, remplir la promesse d'abondance et de liberté. Et comment est-ce qu'on concilie nos valeurs politiques avec ce un changement de paradigme complet?
Je voudrais juste dire qu'effectivement, il n'est pas question de forcément non plus d'être dans une logique où on va... Enfin, parce que beaucoup de gens maintenant disent mais à quoi est-on prêt à renoncer, effectivement. On peut considérer malgré tout, et c'est ce que disait aussi Magali de certaines façons, sur l'importance de ne pas se couper, de ne pas faire du localisme à tout craint, avec le repli, avec tous les conflits que ça engendrerait derrière. Pour ça, bon, on avait fait un choix ici, mais ce qu'on essaye... Il y a des méthodes qui existent depuis pas mal de temps, qui s'appellent le métabolisme territorial, donc il y a des questions, et puis il y aura des interventions un peu là-dessus, et qui sont importantes, sur lesquelles on travaille, et par ce métabolisme territorial, on essaye malgré tout de comprendre au niveau d'un territoire, effectivement, quels sont les flux qui circulent avec le reste du monde. Et c'est à partir de ce type de diagnostic, je ne dis pas que c'est le seul qui peut être utile, mais à partir de ce type de diagnostic, qu'ensuite il faut avoir une réflexion collective au niveau du territoire, de dire, ben voilà, les ressources, elles sont à peu près ça, Par ailleurs, un autre point qu'on introduit, c'est la question de la capacité. Je ne sais pas si vous voyez, c'est l'être maître de son propre destin. C'est-à-dire qu'un territoire aussi, c'est important s'il est maître de son propre destin. Parce que la Maurienne, je connais aussi très bien. Le problème, c'est qu'effectivement, Magali l'a dit, à un moment donné, tous les centres de décision, ils ne sont pas en Maurienne. Et ça fragilise énormément. Si on parle de résilience, justement, il y a un problème. Et donc, la question de la capacité des territoires, ça passe non seulement par une capacité à mieux maîtriser les flux. Ah oui, ça passe, pardon, par une capacité à mieux maîtriser les flux qui circulent. Et mieux maîtriser les flux qui circulent, ça veut dire être capable d'avoir une influence sur ces flux. Ça veut dire qu'une des façons d'orienter la réflexion, c'est de dire, entre plusieurs flux, bah, il faut peut-être préférer des solutions qui nous permettent d'avoir une maîtrise accrue sur le pouvoir de décision par rapport à ce qui circule. Moi, je pense que c'est une des voies pour les politiques publiques importantes, c'est la maîtrise de la décision de ce qui circule, donc de, finalement de, que le politique se réapproprie du destin collectif, alors qu'avec la mondialisation, eh ben, globalement, il n'y a pas plus grand-chose qui est aux mains des décideurs, sur, en tout cas sur les aspects qui nous intéressent écologiques.
Ça, c'est une petite dialectique sur le pouvoir des territoires et le pouvoir des réseaux qui m'intéresse bien.
Ça sonnait un peu comme une conclusion, je vais revenir sur une question très pragmatique. En fait, moi ce qui m'intéresse, c'est, vous dites à quoi on est prêt à renoncer, Catherine Pilon à ANCT, ex-CGET, c'est la question de la réduction des déchets à la source, c'est tous les travaux d'éco-conception qui ont été menés en économie, etc. Et pourquoi, enfin j'imagine que derrière il y a plein de lobbies qui luttent contre ça et qui font que, mais est-ce qu'il y a eu des tentatives législatives, réglementaires de vraiment être plus contraignants sur la production des déchets à la source? Parce que, après tout, c'est difficile de renoncer à la mobilité individuelle, parce que c'est une liberté acquise et les gens y sont très attachés. C'est quand même moins difficile de renoncer aux emballages débiles de pots de yaourt ou autres jeux pour enfants. C'est moins difficile de renoncer à l'électricité qui est utilisée pour illuminer les bureaux la nuit partout dans les métropoles. Enfin, il y a plein de dépenses énergétiques, il y a plein de productions de déchets débiles qui continuent à se faire dans des volumes. Alors je ne sais pas si ça a été quantifié, mais moi ça me semble énorme et on n'aurait rien à renoncer là, en renonçant à ça. Et pourquoi on ne le fait pas? Et est-ce qu'il y a vraiment des lobbies qui sont derrière et qui se battent, ou est-ce qu'on a même essayé vraiment de s'attaquer à ça?
Bon, Nicolas, il ne sait pas tout, hein, il ne travaille pas. Mais c'est un chercheur, attention. Hein.
T'as encore une question comme ça?
Oui, parce que je...
D'accord. Bien, oui. Parce que on n'est pas obligé de justifier tout, parce que...
Non, mais là-dessus, j'ai des réponses.
C'est des questions qu'on se pose à tout le monde, quoi.
J'ai commencé ma carrière sur les déchets.
Ah, quand même.
Oui, c'est pour ça que je me suis permis.
Merci. Chloé Lombard, ministère de la Cohésion des Territoires. Je voulais revenir sur ce que vous évoquiez au départ de régimes conventionnels et de grands principes qui sous-tendent, on va dire, nos sociétés. Depuis finalement pas tant de siècles que ça, mais plutôt des décennies. Et le plus égale mieux, est-ce qu'on n'est pas quand même sur un modèle qui est en train de changer de valeur quand on voit que, alors probablement ça reste peut-être encore au niveau d'une certaine élite, mais qu'aujourd'hui les gens sont plus fiers d'avoir été passés une semaine à la campagne que d'avoir pris l'avion pour aller, je ne sais pas où, dans des îles. Est-ce que ces valeurs, vous observez une évolution ou pas ?
Je vais prendre d'abord à ça et puis ensuite aux déchets. Moi, là, franchement, je marche. J'ai pas fait d'études, donc je ne peux pas dire. Moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a des tranches de la population qui très nettement prennent conscience de pas mal de choses, avec leurs contradictions, parce que la société est faite de telle sorte qu'on a tous nos contradictions. Il est impossible de vivre. Il y en a très très peu qui arrivent à vivre. Mais je pense que c'est socialement très très marqué. Moi, quand j'ai été il y a quelques mois à une marche sur le climat à Grenoble, j'ai regardé autour de moi les gens.
Ah, c'était le Réunion de la Vosges, non,
non, non, mais non, parce qu'il y a tous les gens qui travaillent dans les grandes entreprises technologiques qui étaient là.
Mais Charles n'était pas là, peut-être.
Charles n'était pas là, oui. Mais globalement, les gens des catégories sociales plus défavorisées, ils sont absolument pas là-dedans. Et en fait, c'est très très marqué socialement. Donc c'est intéressant parce qu'il y a quand même un mouvement. Mais enfin, ensuite, je sais pas, il y a peut-être eu des études là-dessus, mais ce que j'observe moi, c'est que c'est loin d'être suffisant. En même temps, les catégories sociales les moins favorisées, vu leur impact par rapport au niveau global, est-ce que c'est là qu'est l'enjeu? Hein? L'enjeu, il serait plutôt sur les 1%, voire 1 pour 1000. Voilà. Sur les déchets. Et parce que j'ai beaucoup travaillé sur les déchets pendant longtemps, j'ai commencé là-dessus. Non, il n'y a pas une... En fait, effectivement, il y a les stratégies de non-regret. Parfois, on se dit, mais pourquoi on ne fait pas ça alors que ça ne coûte rien? Au contraire, ça n'apporte rien de le faire. Et là-dessus, c'est... je ne sais pas à quoi c'est lié. C'est lié au fait qu'effectivement, les gens ne font pas forcément le lien entre ce qu'ils font au quotidien et puis les impacts que ça peut avoir. Parce que ça peut être lourd d'un point de vue cognitif d'être tout le temps en train de se dire pour la moindre chose que l'on fait l'impact que ça va avoir. Et je pense que ça, il faut éviter aussi de trop culpabiliser les gens, je pense. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on a fait beaucoup d'efforts sur l'éco-conception. J'ai beaucoup travaillé avec des collègues en mécanique on a beaucoup de choses là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le fameux, même s'il n'a jamais été mesuré, mais qui a été mis en avant par beaucoup de chercheurs, l'effet rebond. L'effet rebond, c'est quoi? C'est tout simplement une image, c'est quand on a inventé l'ABS, au début c'était que Mercedes et BMW qui avaient l'ABS, on s'est dit il y aura moins d'accidents. En fait, on s'est rendu compte que les gens roulaient plus vite de la voiture devant, puisqu'ils disaient on a un meilleur système de freinage, donc il n'y avait pas moins d'accidents. Mais c'est exactement la même chose, dès qu'on a une ressource, on va en consommer moins, c'est génial, donc la planète va mieux. Ben non, parce que cette ressource dans notre système, du plus égale mieux, on va le réutiliser pour autre chose. Donc toutes les conceptions que vous voulez faire, c'est bien, mais ça ne sert à rien dans un système qui, de toute façon, globalement, va faire en sorte que toute nouvelle ressource va être réaffectée à autre chose. C'est ça le problème. C'est que... Le problème est systémique. Il est pas. On peut faire plein d'améliorations. Une bouteille en plastique, au début, quand elles sont rentrées en France en 1970, les premières bouteilles en plastique, qui étaient en PVC, bon, c'était pas bon parce qu'en plus, quand on les brûlait, ça faisait des dioxines, elles pesaient 50 grammes. Aujourd'hui, elles pèsent 20 grammes et sont en PET, qui est beaucoup moins nuisible. Donc on dit, c'est super. Et il n'y a rien à... Allons-y. Le problème, c'est combien il y a de bouteilles aujourd'hui par rapport à 1970. Même par habitant, je veux dire. Donc, en fait, le problème, c'est pas tellement de... C'est pour ça que la technologie, en tant que telle, et c'est bien, mais c'est pas ça qui va nous sauver, puisque de toute façon, dès qu'on a des progrès technologiques, on trouve de toute façon de quoi consommer autrement tout ce qu'on a économisé.
Nicolas, tu sembles pas passionné par la succession des mots d'ordre, parce que d'abord, tu as commencé par faire la peau au développement durable, à ironiser sur transition. Donc, si je te dis, est-ce que tu crois à la stratégie bas carbone et à sa capacité transformatrice, qu'est-ce que tu vas me répondre? Si je te dis, est-ce que l'économie circulaire est une promesse de reformulation de qu'est-ce que vous faites où et quel rôle vous jouez dans le système économique global, si je te dis le métabolisme territorial est peut-être la notion qui permettrait de reconstruire toutes les approches techniques du territoire, de tout ce qui dans une collectivité ont les compétences habituelles ou assainissement, etc., etc. Tout ça, tu renvoies en disant oui, mais tant qu'on n'aura pas une approche plus sobre de l'action humaine, ça n'est que déplacer le problème, où il y a... Toi qui viens du syncrétisme industriel, il me semble, non? Ou c'est moi qui ai rêvé ça?
De l'écologie industrielle,
oui. Oui, de l'écologie industrielle. Où il y a, parmi ces mots d'ordre, certains d'entre eux qui te paraissent plus pragmatiques, attrapables et facteurs de politique publique engageante. Parce que sinon,
Non, mais toutes ces choses-là peuvent faire sens. Mais je renvoie au fait qu'elles font sens à partir du moment où on se met autour d'une table collectivement, on se dit dans quel sens on va avancer, avec quelles valeurs on a besoin de guides. Et ensuite, l'économie circulaire peut très bien faire plein de choses positives, mais l'économie circulaire enchâssée dans le régime économique dominant, elle ne fait juste que... Il y avait un des principaux auteurs du MIT en écologie industrielle qui disait on faisait du quick fixes. Hein, on a le système... Et puis on fait des petites réparations de ci, de là. On réduit la non-durabilité, mais on ne fait pas de la durabilité. C'est au niveau de... C'est la racine de la société qui est questionnable. Ensuite, ou pas. Hein, parce que moi, par exemple, beaucoup disent, au bout d'un moment, on pourrait aller vers une sorte d'écofascisme et tout ça. Et on le voit, d'ailleurs, les libertés, progressivement, pourraient être... est-ce que c'est ça aussi qu'on veut? Enfin, moi, je pense que ça mérite un débat. Hein, c'est pas dit que... Je suis pas non plus clair. En revanche, ce qui est vrai, mais bon, on a fait des choix là, de présenter des choses au niveau global. J'insiste, effectivement, il faut être malgré tout optimiste. Les politiques publiques qui soutiennent tout un tas de projets qui, pour le coup, il y en a des myriades de projets, et c'est pas que des petits projets de par le monde, qui justement mettent en avant des principes différents. ça peut faire quelque chose de positif. Juste, j'étais en train de penser par rapport à ce que tu disais, l'agriculture biologique, c'est pareil. Ceux qui portent une certaine agriculture biologique vont très clairement dans le bon sens. Il y a une certaine forme d'agriculture biologique, on le dit de plus en plus, qui ne va pas du tout dans le bon sens. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des outils, des objets que l'on peut manier, mais avec quelle intention on les manie? C'est l'intention qui est fondamentale. Voilà.
La dernière question, c'est pour Charles Ambrosino, parce que comme ça, il va pas en profiter pour se présenter, on va travailler avec lui après. Vas-y, Charles.
Oui, bonjour, je suis enseignant-chercheur, collègue de Nicolas Bouclet à l'Institut d'urbanisme et de géographie admin. J'avais juste une question à te poser, parce qu'il me semble qu'elle a été posée par ailleurs, mais peut-être différemment. Oui, non, bien sûr, mais est-ce que tu raisonnes en termes d'échelle de gouvernement ou de gouvernance, que ce soit d'ailleurs des échelles ou des réseaux, comme le disait Martin, parce que c'est vrai que derrière la question de la transition, lorsqu'on parle de ville en transition, on sent un peu une ressuscité du municipalisme, issu du début du 19e siècle, contre un espèce de développement durable qui serait une sorte d'incarnation d'une politique publique étatique. Et on est quand même en France et on a l'impression quand même que se rejoue cette traditionnelle opposition entre Jacobins et Girondins, surtout à Grenoble, où la municipalité serait la bonne échelle pour répondre à la question de la transition contre l'État, quoi. Là-dedans... Il y a quand même des travaux sur les biorégions, il y a surtout toute une série de travaux qui commencent à essayer de trouver des échelles médianes, peut-être sont-elles contradictoires ou complémentaires de réseaux médians, d'organisation des territoires, mais est-ce que tu traduis tout ça en comment on le gouverne et à quelle échelle?
Ah, il y a un peu de système territorial à la fin. Oui.
La question de l'échelle est tellement pas... Enfin, il n'y a pas de réponse. Mais c'est vrai que nous, en écologie territoriale, en utilisant le métabolisme, on essaie de travailler sur le bassin de vie, qui dépasse évidemment les frontières communales. On fait beaucoup d'agriculture en ville, agriculture urbaine, c'est un maître mot, c'est très intéressant. Mais on a Sabine Barle, avec qui j'ai beaucoup travaillé, elle a fait des études qui montrent que, par exemple, pour le Grand Toulouse, où pourtant il y a pas mal de terres rurales, si on voulait nourrir, si on voulait être autonome, en fait, on arriverait à se nourrir à l'équivalent de 1% des besoins. Donc évidemment que l'échelle trop locale, pour plein de besoins, elle n'est pas pertinente. Alors, je ne sais pas le débat avec le national, mais en revanche, pourquoi j'ai voulu parler à la fin de Chancel et Piketty, c'est parce que pendant longtemps, effectivement, on a beaucoup essayé de réfléchir plutôt sur les solutions seraient plus au niveau du local, du territorial, etc. etc. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Je pense que c'est vraiment fondamental. Mais si on resitue ce débat en plus, on se dit que ça ne suffira pas si au niveau plutôt même international, plus que national, il n'y a pas des politiques publiques justement de réallocation des moyens pour agir. C'est-à-dire que c'est plus que le national. Pour moi, le débat, il est entre... le national peut servir de courroie de transmission, mais pour moi, c'est entre des grands espaces de vie, effectivement, qui vont au-delà du municipal, et puis, derrière, l'international. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire ça, mais bon...
Donc plus d'État.
Non.
À l'interface. Je vous promets qu'on continuera ce débat sur les systèmes et les échelles de l'action, puisqu'évidemment, c'est celui qui, peut-être, en filigrane, vous intéresse le plus.